nous venons donc de célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars. Et à l'occasion de cette journée, ONU SIDA a indiqué que le sida demeure la première cause de mortalité chez les femmes. Donc peut-être justement pour commencer, vous avez des chiffres ?
Eh bien, effectivement, sur la proportion des personnes qui meurent du VIH, il y a plus de femmes qui meurent du VIH, bien qu'elles soient celles qui aient accès aux antirétroviraux les premières. Et en fait, un chiffre plus marquant encore que celui des décès, c'est le fait qu'il y a 6000 adolescentes et jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans qui acquièrent le VIH chaque semaine dans le monde.
Et donc, ceci nous renvoie, je pense, aux inégalités et aux injustices auxquelles sont confrontées les femmes et les filles. Donc, quelles sont justement ces inégalités et quelles sont les raisons justement de ces chiffres aussi ?
Les questions de capacité des femmes et des jeunes filles à avoir contrôle sur leur santé sexuelle et reproductive est en fait un énorme souci. Le fait de l'inégalité entre hommes et femmes en termes d'accès à l'éducation, en termes d'accès à des opportunités économiques, en fait, il en résulte que les femmes et les jeunes filles se retrouvent dans des situations où elles sont obligées de s'exposer à des situations où elles sont plus exposées au VIH pour pouvoir survivre et pouvoir suppléer à leurs besoins, de besoins vitaux. Et il y a aussi l'aspect de la perception de la masculinité qui est souvent dangereuse en fait pour les femmes et qui affecte la capacité des femmes à contrôler leur santé elles-mêmes. Et puis l'aspect de l'existence de lois en fait qui criminalisent les femmes, qui les empêchent d'avoir accès à des services qui leur permettraient de mieux contrôler leur vulnérabilité au VIH. Et cette inégalité, en fait, c'est à travers tous les pays. Il n'y a pas véritablement de pays en particulier qui est problématique. Cette inégalité est constante. Il en résulte que, quelle que soit, en fait, la nature de l'épidémie du VIH dans les pays, les femmes, qu'elles soient des femmes transgenres ou les femmes qui s'injectent de la drogue ou les travailleuses du sexe, sont plus exposées au VIH que les hommes. Et à titre d'exemple, les femmes transgenres sont 19 fois plus à risque d'acquérir le VIH dans leur vie qu'un homme, par exemple. Et les utilisateurs de drogues injectables femmes, 17 fois encore plus que leur père masculin.
Mais pourtant, il y a des progrès ont été réalisés. Donc, quels sont justement les progrès qui ont été réalisés sur ce sujet ?
Et en termes de progrès, les progrès qui ont été effectués, effectivement, il y en a pas mal. C'est par exemple le fait que sur les deux dernières décennies, il y a eu une chute de 44% du nombre de nouvelles infections parmi les jeunes femmes et les adolescentes. Et il y a plus de jeunes femmes et d'adolescentes qui ont accès aux antirétroviraux pour traiter les symptômes liés au VIH. Donc dans le monde, il y a par exemple 68% de femmes et de filles de 15 à 49 ans ou plus qui reçoivent les traitements. Et en fait, ces progrès ont été possibles grâce au fait qu'il y a quelques progrès qui ont été faits pour assurer l'égalité entre hommes et femmes, notamment, par exemple, le fait qu'il y a plus de filles qui restent scolarisées jusqu'au niveau secondaire et aussi en termes de meilleure autonomisation des femmes et quelques pays, effectivement, qui ont changé leurs lois pour permettre aux femmes de jouir de leur droit à l'égalité. Un exemple concret, je pense, un exemple concret de où les choses ont marché, je voudrais parler du Lesotho, où sur une période de 10 ans, les nouveaux cas de VIH parmi les jeunes ont été réduits de 41%, et avec un meilleur effet encore sur les femmes et les jeunes filles, tout simplement parce que le Lesotho a mis en place des programmes complets de prévention qui consistent autant à mettre à la disposition des personnes les informations nécessaires, les moyens de prévention nécessaires, mais aussi qu'ils ont mis les mesures structurelles en place pour lever toutes les barrières à l'accès aux services ou les circonstances qui peuvent exposer les femmes ou les filles à davantage de violence ou qui pourraient, à leur tour, éviter qu'elles aient accès aux services et aussi l'engagement politique. Voilà un exemple concret où les choses ont marché comme on le souhaiterait que ça marche partout.
Et comment peut-on justement réduire ou éradiquer ces inégalités ? Y a-t-il des moyens pour qu'on arrive à justement réduire ces inégalités entre les hommes et les femmes ?
Oui, d'après les données que nous avons et aussi par rapport aux recherches qui ont été effectuées dans le domaine, il est évident que Il y a des changements au niveau structurel qui peuvent être faits, mais aussi au niveau programmatique. Alors, au niveau structurel, par exemple, des lois peuvent être réformées pour assurer une meilleure protection des femmes et des jeunes filles, pour leur permettre de mieux prendre des décisions, mais aussi des décisions informées par rapport à leur santé et aussi par rapport à leurs rapports intimes, et aussi des lois pour lever la pénalisation par rapport ou des pratiques punitives à leur égard concernant leur sexualité, leur autonomie et aussi leur contrôle de leur santé. Et aussi, il est très important en fait, du point de vue programmatique aussi, d'assurer par exemple l'éducation sexuelle complète en vue de la prévention du VIH. Et aussi bien sûr pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive, mettre en place des programmes vraiment complets pour prévenir les grossesses non désirées et faire en sorte que les femmes, en fait, et les jeunes filles aient le choix quand il s'agit de prendre des décisions concernant les grossesses qu'elles veulent avoir, l'espacement des naissances, et aussi qu'elles aient accès à l'information pour pouvoir faire ces choix-là. Un autre aspect également, c'est mettre en place des mesures, que ce soit par le biais de lois ou de politiques, ou par le biais de l'éducation de la population, et aussi des jeunes hommes, des jeunes femmes, aussi pour mettre fin à la violence sexiste. Et pour que tout ça soit possible, inviter les États et les gouvernements à assurer des investissements suffisants en fait, dans ce genre de programme et s'assurer que les femmes et les jeunes filles aient accès à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité, que ce soit intégré dans les systèmes de santé et aussi que ce soit des services en fait, qui soient à leur portée, autant économique que géographique.
Oui, le rapport parle beaucoup du fait qu'il faudrait éradiquer la violence à l'égard des femmes et c'est une des priorités justement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à éradiquer cette violence à l'égard des femmes qui sont soit séropositives ou qui ont le VIH ?
L'éducation a effectivement un rôle assez important. En tant que société, en tant que communauté, nous arrivions à transformer le concept de masculinité et les lois, en fait, peuvent permettre d'y arriver, d'assurer l'autonomisation de la femme, de faire en sorte, par exemple, que les lois ne soient pas mises en place ou qu'elles soient réformées pour que les femmes aient accès à des services tels que l'interruption volontaire de la grossesse, par exemple. Et également, pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes, effectivement aussi d'autres comme l'accès à l'éducation, l'accès à des opportunités économiques et politiques aussi. En fait, vraiment lever les obstacles structurels qui existent pour permettre en fait une meilleure compréhension, une meilleure assise du statut de la femme et de l'homme.
Oui, et le rapport aussi parle de la pleine participation des femmes dans les décisions touchant aux programmes liés au VIH. Est-ce que justement ONU-SIDA met des programmes où vraiment les femmes participent à ce genre de prise de décision?
Oui, tout à fait. La participation en fait des personnes qui sont les premières concernées en fait par les programmes doivent vraiment faire partie du début jusqu'à la fin, jusqu'à de la conception des programmes mis en œuvre, mais aussi le suivi pour s'assurer que ces programmes non seulement répondent effectivement à leurs besoins, mais aussi qu'il n'y ait pas des obstacles non voulus alors que la mise en œuvre de ces programmes en fait résulte en des conséquences qui n'étaient pas anticipées depuis le début. Et en fait, dans la manière dont l'ONU-SIDA opère, il est très important de faire en sorte qu'il ne s'agit pas juste de bénéficiaires passifs de programmes, mais effectivement d'acteurs, de partenaires dans la mise en œuvre de ces programmes. Et en fait, d'après l'expérience que nous avons dans le domaine, plus les femmes, mais aussi les hommes, les jeunes, sont impliqués dans les programmes, meilleur est le taux de succès.
Oui, parce que c'est aussi une meilleure compréhension de ce qui est mis sur la table, n'est-ce pas?
Exactement. Mmh. Meilleure compréhension de ce qui est mis sur la table et meilleure appropriation également des mesures qui sont mises en œuvre et que ce soit vraiment une appropriation communautaire en fait, des interventions.